Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, ensemble avec Michel Kifinda, nous recevons Tommy Tamboué, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion PDDRCS en sigle. Il s'exprime à l'occasion, le lundi 4 juillet 2022, du premier anniversaire depuis le lancement de ce programme. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Grande Interview. Grande Interview co-animée aujourd'hui, une fois de plus, avec Michel Kifindangoy. Grande Interview qui reçoit Monsieur Tommy Tamboué. Il est le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle. Monsieur Tommy Tamboué, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Aujourd'hui, votre institution, le PDDRCS, totalise une année. L'émission, nous la voulons pédagogique pour permettre aux Congolais, non seulement les Congolais qui sont au pays, mais tous ceux qui sont à l'étranger également, de bien comprendre c'est quoi ce programme, quels sont ses objectifs, et une année après, où est-ce qu'on en est et quelles sont les perspectives. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents concepts: désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, c'est un grand plaisir d'avoir cette interview au moment où nous sommes en train de célébrer le premier anniversaire du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Si je commencerai par le mot P, je vais dire tout simplement programme. Le programme, tel qu'il a été conçu, il relève d'une grande histoire. Il a existé d'autres programmes précédents. Le programme qu'on appelait CONADER, ce programme était chargé de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants, ici des belligérants. Il a existé après cela un deuxième programme qu'on a appelé le DDR 2, et le DDR 3 est arrivé avec la dénomination de UPNDDR, unité. Donc c'est le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. Il y a existé également une unité d'exécution de ce programme. Contrairement aux autres programmes qui s'occupaient seulement que de l'ex-combattant, le nouveau programme a pensé qu'il faut aller chercher les véritables causes qui ont poussé à cette personne d'aller dans les groupes armés. Et on s'est rendu compte que ces causes sont soit liées au conflit, soit identitaire, soit purement conflit foncier, conflit coutumier, conflit de limite. Ce sont ces types de conflits qui ont sécrété les groupes armés. Et donc, quand nous parlons maintenant du relèvement communautaire, c'est pour chercher les causes des conflits. Voilà pourquoi nous parlons du relèvement communautaire.
Et justement, monsieur le coordonnateur, à travers votre réponse, vous avez pratiquement résumé toute la mission de votre structure. Mm-hmm. Mais dites-nous, vous venez quand même pendant cette année de faire le tour du pays pour identifier ces personnes à démobiliser et à réinsérer dans la société. Qui sont les acteurs concernés par votre programme et dans quelle partie du pays sont-ils localisés?
Merci beaucoup. C'est une question très vaste. Je ne saurais même pas résumer cette question. Elle est tellement vaste. Mais disons d'abord que le programme tire sa conception des faiblesses des anciens programmes. Donc le DDR 1, le DDR 2, le DDR 3. Et là, nous sommes dit que cette fois-ci, il faut étudier les causes profondes. C'est comme ça qu'on a, vous avez vu, on s'est dit que les causes sont dans des communautés et non pas ailleurs. Alors on a ajouté, il faudrait que ce soit un DDR communautaire. Donc un DDR civil, un DDR communautaire. Maintenant, lorsqu'on est arrivé à ce DDR communautaire, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que les communautés puissent arriver à sentir la différence. Donc nous sommes dit qu'il faut ajouter la stabilisation. Donc il faut étudier les questions de gouvernance politique, économique, minière, foncière. Toutes ces questions doivent être étudiées à fond afin d'avoir des solutions. Maintenant, pour répondre à votre question, comment arriver à produire visiblement ce programme avec toutes les articulations? Première chose que nous avons faite, c'était d'étudier, de faire l'état des lieux. Et nous sommes rendus compte que toute la République démocratique du Congo a des problèmes. Contrairement à ceux qui pensent que le programme est seulement pour l'Est, mais nous sommes rendus compte que le programme ne concerne pas seulement l'Est, ça concerne toute la République démocratique du Congo.
Comment, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça concerne, par exemple, le Bandundu, l'Équateur, où il n'y a pas de troubles comme dans l'Est?
Oui, mais le relèvement communautaire ne concerne pas seulement les groupes armés, ça concerne tous les Congos. Tous les Congos est à relever aujourd'hui. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que le chef de l'État a compris qu'il faut un programme de 145 territoires. Alors, nous sommes dit qu'il faut partir étape par étape. La première étape a défini 5 provinces prioritaires. L'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika et le Maniema. On a défini aussi les provinces pilotes. On a défini 3, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et dans notre travail, nous avons commencé par ces 3 provinces. Nous sommes partis faire l'état des lieux dans la province du Nord Kivu. Nous sommes allés dans l'Ituri, jusque dans le site d'Irum. Nous sommes partis dans le Sud Kivu. Et dernièrement, nous venons de la province du Tanganyika.
Monsieur le coordonnateur, 4 juillet 2022, ça fait une année que le PDDRCS existe. Concrètement, aujourd'hui, si vous étiez demandé de présenter un bilan une année après, ce serait lequel?
Bon, c'est trop fort de parler d'un bilan en termes quantitatifs, mais il y a des choses qui ont déjà été faites. Première chose, donc je parle de l'état des lieux. Cet état des lieux a produit la stratégie nationale PDDRCS, ce qui est un élément très important. Beaucoup de programmes ont existé sans la stratégie nationale. Les outils de gestion ont été produits également. Tous les manuels ont été produits. Et je vous annonce que dans quelques jours, vous avez suivi, nous avons nommé au niveau de ces 3 provinces pilotes déjà les coordinateurs provinciaux. Et donc nous allons commencer le travail d'élaboration avec les experts de plans opérationnels pour chaque province, c'est-à-dire la véritable appropriation du programme au niveau de chaque province. C'est chaque province maintenant qui va dire, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de la route, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin, d'électricité, nous avons besoin du petit marché. C'est ça le relèvement communautaire. Et c'est ce que nous allons, maintenant nous sommes en train de faire. Deuxième chose qui a été fait déjà, malgré les difficultés que nous avons connues, mais nous avons commencé ces étapes déjà de désarmement, de démobilisation dans la province du Nord Kivu. Vous avez suivi de Mbambiro. Lorsque nous avons été nommés, nous avons constaté qu'il y avait déjà du rendu depuis 2019. Aujourd'hui, il y a 2000 qui ont été démobilisés et qui vont connaître la réinsertion. Ce que nous faisons maintenant, avec tout ce qui s'était déjà rendu, c'est de passer à la phase de désarmement officiel et la démobilisation officielle et entamer la phase de la réinsertion communautaire.
Votre mission est assez immense. Donc, il y a des choses pour lesquelles vous serez peut-être appelé à travailler en collaboration avec certains ministères. Dites-nous, monsieur le coordonnateur, comment vous entendez établir cette collaboration, notamment avec le gouvernement, les FARDC, pour renforcer l'efficacité de toutes vos actions?
Voire même avec la MONUSCO, qui est aussi un des grands partenaires.
Bien, merci. D'abord, il faut comprendre le programme. Le PDDRCS joue un rôle de coordination des actions qui vont dans le sens du développement communautaire intégré et qui vont dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité. Alors, au niveau du comité de pilotage, qui est l'organe le plus important, c'est l'organe central du PDDRCS, qui est dirigé par le président de la République et le vice-président et le premier ministre. Il y a au total 15 ministères qui jouent le rôle très capital. C'est pour vous dire tout simplement que le PDDRC n'est pas un organe isolé. Il joue le rôle de coordination des actions qui sont menées au niveau de chaque secteur du gouvernement. Et au niveau des provinces, nous travaillons directement avec le gouverneur et les actions sont menées à travers les ministères sectoriels au niveau de chaque province. S'agissant, par exemple, des FARDC, le désarmement et la démobilisation, le faisons avec l'état-major général. S'agissant de la MONUSCO a plusieurs sections et nous collaborons. Pour vous informer, peut-être que vous ne le savez pas, nous avons un coordinateur principal de la MONUSCO qui est le pont qui est avec nous ici.
Le point focal.
Il y a un point focal. Il est coordinateur principal de la stabilisation.
Radio Okapi. Grande interview.
Dans Grande Interview aujourd'hui, nous recevons Tommy Tamboué, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion PDDRCS en sigle. Il s'exprime à l'occasion, le lundi 4 juillet 2022, du premier anniversaire depuis le lancement de ce programme. Alors, monsieur le coordonnateur, le PDRCS, quand on parcourt vos documents, et il a plusieurs piliers. Vous en avez cité certains ici. C'est par exemple paix, résolution des conflits et cohésion sociale, restauration de l'autorité de l'État et sécurité, relèvement et réintégration communautaire, stabilisation et développement économique et social, sensibilisation, communication et vulgarisation. Après une année de pratique sur terrain, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui considérer comme défis, les défis que vous avez rencontrés sur terrain?
Bon, il y a plusieurs défis. Tout ce que vous venez de dire là, je peux le résumer en deux mots. Le PDDRCS s'occupe de la stabilisation et du développement communautaire intégré. Dans ce programme, c'est pourquoi nous l'appelons d'ailleurs un programme multisectoriel. C'est un programme qui a rencontré beaucoup de difficultés. Et parmi lesquelles, même les autres programmes anciens ont eu ces mêmes difficultés. Première difficulté sur les moyens financiers. C'est un programme qui exige beaucoup de moyens. Deuxième défi, c'est le défi de mieux comprendre l'opérationnalisation du programme. Certains pensent qu'on est venu prendre leurs attributions et à un moment donné, certains se mettent même en avant pour même bloquer le programme. Troisième défi, qui n'est pas le moindre, c'est la diversité politique. Nous sommes dans la démocratie. Il y a ceux qui pensent peut-être que la réussite de ce programme va donner la chance à l'actuel président de pouvoir réussir et être bien élu, parce que c'est un programme qui est à la base. Et certains, immédiatement, se mettent en face de nous pour dire aux communautés, n'acceptez pas ça.
Mais quand même, monsieur le coordonnateur, vous avez signalé certaines démobilisations, plus de 1500 par exemple dans le Nord Kivu, des gens qui ont déjà déposé les armes et qui attendent leur réinsertion. L'histoire nous renseigne que dans les passés, avec les autres programmes, il y a toujours eu des démobilisés, mais qui se sont vus dans l'obligation de retourner dans les groupes armés, puisque la réinsertion n'a pas suivi. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que cette fois-ci, la réinsertion soit effective en dépit des difficultés financières que vous connaissez?
Une très bonne question. Comme je viens de le dire tantôt, le PDDRCS tire ses leçons des échecs des programmes précédents. Nous savons pourquoi il y a eu le DDR1, le DDR2, le DDR3. C'est effectivement parce que certains ex-combattants ont été démobilisés, ils sont passés par les centres de préparation à la réinsertion, mais le grand problème qui s'est posé, c'était leur réintégration au sein des communautés. Et nous ne voulons pas rééditer la même expérience. Nous voulons éviter cette expérience. C'est pour cette raison, beaucoup de gens qui viennent nous voir, nous disent, oh, vous n'avez pas commencé tel endroit, vous n'avez pas commencé. Nous ne voulons pas faire la même chose comme un mouvement où les gens se rendent, comme en 2019. Vous pouvez me poser la question, tous ceux qui se sont rendus en 2019, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Certains sont rentrés et ils sont devenus très radicaux dans leur mode opérationnel. Nous, ce que nous voulons, c'est effectivement démobiliser un ex-combattant, lui donner la chance de formation et après la formation, avoir du travail, être intégré dans la communauté réellement et être utile dans la communauté, à tel point qu'il ne puisse plus avoir l'envie de retourner dans la vie de groupes armés. C'est ce que nous voulons éviter. Alors, ce travail-là nous demande d'aller lentement écouter ses préoccupations et l'orienter sur base de ce qu'il veut réellement et non pas aller l'imposer une filière. Si vous l'imposez une filière, il va la terminer. Et après avoir terminé, il va se rendre compte qu'il n'a pas, ce n'était pas sa vocation. Il va retourner. L'autre chose, c'est mettre fin à cette politique de quitte. Les évaluations qui ont été faites en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, même dans le Tanganyika. Vous savez, aujourd'hui, dans le Tanganyika, les gens sont venus nous déposer des dossiers. pour nous dire, nous, nous avons fait la formation, mais on ne nous a pas redonné les kits. Alors nous, nous disons, est-ce que ces gens sont encore sous notre programme? Ils ont été dans les anciens programmes, mais quelqu'un vous dit, nous, nous avons fait la formation, mais on ne nous a pas donné les kits. Et nous nous posons la question, finalement. Ces kits, c'était un moyen d'enrichissement, c'était quoi? Et finalement, nous avons compris, les gens viennent nous réclamer ce que nous n'avons pas encore commencé à faire. Cette politique des kits a eu comme conséquence, les gens viennent chercher les kits, après avoir eu les kits, ils les revendent et ils retournent encore dans la brousse.
Alors, monsieur le coordonnateur, les groupes armés locaux, nationaux, pour la plupart, si pas tous, sont d'origine communautaire. Est-ce que cela ne constitue pas un grand défi pour vous par le fait de vouloir les démobiliser et entre-temps, leur communauté se dise « Oui, mais comment allons-nous nous défendre ?»
C'est vrai. Lorsque nous sommes allés dans certains milieux comme Menemboy, les gens ont eu le courage de nous dire la vérité en disant « Non, monsieur le coordonnateur national, vous nous demandez de démobiliser, de vous donner tous nos enfants. Mais si ces enfants n'étaient pas là, telle tribu allait déjà nous exterminer. » Et une autre tribu aussi est allée pour me dire, mais si vous me demandez de vous donner ces jeunes gens, nous ne refusons pas. Ce sont nos gens, nos enfants, nous leur donnons la nourriture. Mais ils nous défendent, parce que sinon, nos vaches seraient déjà exterminées. Ça, c'est à Minembo. À Bounia, on m'a dit presque la même chose. Ils m'ont dit, quelles mesures transitoires avez-vous prévues lorsque ces enfants, nous allons vous les donner et nous rassurer, par exemple, que les lindous ne vont pas venir nous tuer. Et vice versa, l'Inde aussi on dit, quelles mesures vous nous donnez, quelles garanties, si on donne ces enfants, que les Hema ne vont pas continuer à chercher à arracher nos terres.
Est-ce que l'idéal ne serait pas de vous focaliser sur le dialogue intercommunautaire pour essayer de renforcer un climat de paix et de cohésion au sein des communautés?
Effectivement, c'est pour cette raison, nous, en faisant des analyses, après avoir constaté que les conflits sont communautaires, nous avons focalisé notre attention sur la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, pour nous, c'est la recherche des solutions durables par le moyen des dialogues démocratiques, des dialogues de cohésion. Et partout où nous sommes passés, nous avons mis les communautés dans les dialogues. Et même dans le Tanganyika, nous y venons. Nous avons eu le privilège d'inviter tous les chefs de groupement du Tanganyika, tous les chefs de secteur, tous les chefs de chefferie, tous les administrateurs, la société civile, le bazar intercommunautaire, les jeunes, les femmes, tous on les avait mis dans un atelier. Pendant deux jours, il y a eu des déclarations et on les a mis dans le carrefour par territoire pour identifier les véritables problèmes et nous les proposer. Ils se sont parlé et il fallait entrer dans ce carrefour-là. Quand vous rencontrez les jeunes territoires de Moba, ils se parlaient.
Les toits étaient aussi représentés.
Les toits ont été représentés et ont eu droit aussi de discuter et de poser des problèmes clairement. Et je remercie en passant Madame le gouverneur dans son gouvernement. Elle a pensé au tout. Et ce qui est une bonne chose. Déjà, nous sommes en train d'aller, nous avons prévu d'autres petits dialogues au niveau de certaines chefferies et même des groupements qui posent problème. Comme à Nyunzu, Lambokatenga, il y a la problématique de certains chefs des groupes armés que vous appelez, entre guillemets, les seigneurs de guerre, comme par exemple dans les Tanganyika, Mundusi, Bitonto. Nous avons déjà pris des dispositions pour dialoguer afin de trouver des solutions. S'il y a un peu d'accalmie dans l'Ituri, c'est parce qu'il y a eu dialogue à Nyankunde, pour le Bira, à Kwandroma, pour le Lendu, et nous sommes en train de préparer un autre dialogue pour la communauté Hema. Donc, et après, il y aura un dialogue intercommunautaire où, cette fois-là, tout va être terminé.
Mokoyo Congo, ekola tobete la katolo yo, soki solo pona Congo, konga kosala kimia yango yo.
Lexus,
ouais, Tiken.
Le Congo est fort, le Congo est riche, mais le Congo est faible.
Okay.
Parce que le Congo est divisé.
La preuve qu'un pays peut se perdre entre deux lignes et son hymne.
Yeah.
On se retrouve
enfermé derrière une porte ouverte. La paix compte ses plumes. Depuis que la guerre a pris des ailes,
l'air sont réduits nos rêves.
Vie d'hospice dans un pays palace. D'office coupable, la justice est lâche. Sur les silences, t'as tué la parole. Y'a plus d'oreilles qu'il y a des murs. Depuis que nos sangs choquent les ondes,
s'échappent.
Le cours de l'or sur les crimes en cours. Sur des pertes faites bénéves. Corps sur table et ronde.
Des aigles feintent d'être rossignol. La paix au bout de la langue, des armes au bout des ongles. Nos cris pour ces surdoués demeurent muets. En clair écrit sur visage et ventre, nos démons ont les torchiques d'aveugler des visionnaires. Écorchés vifs, on tient le coup tête ailleurs. D'ailleurs, plus qu'un constat, l'échec est une leçon. La guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions. On vit après la pluie, crache pas sur le beau temps. C'est planter l'avenir entre charniers et coltan. Énorme est le chantier, sommes-nous pas des titans? Le temps pris entre Occident et Orient, résistant, l'espoir on se scarifie sur le torse. Au-delà de la foi, on sait notre sort au bout de la pioche. Des larmes en sueur, au bout de la course, au bout de la nuit, le soleil pour tous, c'est son réveil, sonne la cloche. Pour l'histoire, le présent est piégé. L'amnistie des bras s'est justifiée. Aux amnésiques à qui je dédie ce son, la guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions.
Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, sachez que Grande Interview reçoit Monsieur Tommy Tamboué, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Monsieur le coordonnateur, sur nos antennes à Radio Okapi, nous avons diffusé plusieurs reportages où la situation sécuritaire commençait déjà à s'améliorer à la suite de la signature de beaucoup d'actes d'engagement par les groupes armés. Il y a par exemple, on voit dans les documents du PDD RCS, actes d'engagement pris par URDP, Sekodeko, Chiniakilima, il y a le FPIC et beaucoup d'autres qui ont signé l'acte d'engagement et la situation sécuritaire commence à s'améliorer. Les populations qui avaient fui leur milieu commencent à rentrer. Mais d'un autre côté, il y a le sommet de Nairobi. Qu'est-ce que le sommet de Nairobi peut apporter comme impulsion dans le fait de mobiliser, de sensibiliser les groupes armés à déposer les armes?
Merci beaucoup. Nairobi joue un rôle important dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. C'est un cadre où on essaye d'impliquer les États, même les États qui ont leurs groupes armés dans notre pays, à comprendre la nécessité de s'engager dans la recherche de la paix. Mais Nairobi, selon le PDDRC, doit tenir compte de certains éléments importants qui peuvent déranger. Le PDDRCS n'accepte pas. Et vous avez suivi le discours du chef de l'État le 30 juin. Le PDDRCS n'accepte pas certaines choses. Par exemple, le dépôt des cahiers de charges. L'amnistie, ça ne passe pas. Dans la stratégie, il n'est pas prévu cela. Le PDDRCS n'est pas d'État. Négociation, intégration automatique dans l'armée et dans les FARDC, ça ne passera pas. Je suis honnête.
Une autre complexité, monsieur le coordonnateur, nous sentons de plus en plus une cohabitation des fils du pays qui se coalisent avec des étrangers et qui forment des groupes armés, surtout dans l'est du pays. Maintenant, comment vous arrivez à faire ce tamis de ceux qui doivent être réintégrés dans la société congolaise et ceux qui doivent être référés dans leur pays d'origine?
Les groupes armés locaux, oui, ils sont partis de la cible. Les groupes armés étrangers, il y a dans notre pays les mouvements étrangers qui ont créé leur maquis ici. Je prends par exemple l'exemple des groupes armés burundais qui ont créé leur maquis dans l'est de la RDC, dans le territoire d'Ouvira et de Fizi. Le mécanisme de dialogue que nous faisons avec le Burundi, c'est de créer un mécanisme similaire au nôtre pour recevoir les leurs sous la garantie de la communauté internationale. Avec le Rwanda, il y a un mécanisme qui existe. Ils ont leur DDR. Avec l'Ouganda, ils ont leur commission nationale d'amnistie. Et donc, nous avons des dialogues avec eux. Et aujourd'hui, nous encourageons, nous félicitons encore le travail diplomatique de notre président de la République qui a amené le président burundais à comprendre qu'on n'aura pas la paix dans la partie du sud Kivu, dans la partie du sud-sud, ou Vira Fizi, si les rebelles burundais qui sont dans la partie Minembwe, dans la partie de Bijombo, dans Itombwe, n'arrivent pas à avoir le couloir de sortie comme d'autres Congolais, nous nous le recevons tous. Maintenant, le tamis s'est fait à ce niveau-là de ce que nous appelons les opérations IVO, dans l'identification. C'est là que nous savons, celui-ci n'est pas un Congolais, celui-ci c'est un Burundais, celui-ci c'est un Rwandais. Alors, le Burundais, nous travaillons avec les DDR MONUSCO pour qu'ils soient rapatriés chez eux. Les Rwandais, la même chose. Les Ougandais, la même chose. L'autre aspect le plus important, c'est que quand je parle de groupes armés étrangers et de combattants étrangers, il y a dans la partie de Beni et Mambasa, vous avez les ADF. Ces gens, il y a des djihadistes, donc ce sont des étrangers, qui sont venus prêter main forte pour la création de leur califat en RDC, donc l'État islamique. Ceux-là, vous avez suivi même la capture, même d'un Jordanien. Et là, vous allez trouver, il y a les Burundais, il y a les Tanzaniens, les Rwandais, les Somaliens. Donc, ils sont là. Il y a les Kenyans. Ces gens-là sont des islamistes, djihadistes, qui sont considérés comme des combattants étrangers. Par contre, des mouvements étrangers sont ceux-là qui ont pour objectif de créer, d'aller renverser le régime dans un autre pays. Ils ont leur maquis dans le but d'aller renverser le régime. C'est le cas de LRA et les autres.
Monsieur le coordonnateur, notre émission est en train de toucher à sa fin. Parmi les provinces pilotes que vous avez citées, la plupart sont dans l'Est. Est-ce que vous pouvez passer un message à ces combats, à ces miliciens, à ces groupes armés, un message en français et en swahili pour les sensibiliser à déposer les armes et à venir rejoindre le programme?
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter et remercier les communautés de l'Ituri qui ont pris l'engagement d'aller dans les dialogues intracommunautaires. Je parle ici de la communauté Bira, la communauté Lendu, les Hema, qui ont pris l'engagement. Et à travers ces engagements, leurs fils ont décidé également de déposer les armes. Je voudrais les rassurer que nous sommes en train de travailler dans cette province. Déjà, nous avons un site pilote de Diango qui est à 10 km de Bunia. Ce site est déjà ouvert. Ceux qui veulent se rendre, ils sont le bienvenu. Ils seront accueillis. Ils ne seront pas maltraités. Nous le recevons au site de Diango. Pour le Nord Kivu, je voudrais également féliciter le travail de l'armée. Et nous voulons informer les communautés du Nord Kivu qui a un site également pilote qui va être ouvert dans quelques jours au niveau de Chacha. Leurs enfants peuvent aller. Il y a des sites qui seront ouverts à Chacha, au niveau du Nord Kivu, des sites pilotes. Il y a Chacha et Vuinga. Et au site Kivu, il y a 3 sites qui seront ouverts. Il y a un site de Kabare qui va prendre toute la zone et de Kalehe, Bunyakiri, Jiralo. Il y a le site de Katobo qui sera ouvert dans quelques jours et un site qui sera à Kananda qui sera aussi ouvert dans quelques jours. Et pour le Tanganyika, je vous informe qu'il y a un site Kasambondo qui est à 25 km qui vient d'être ouvert pour recevoir tout cela qui souhaiterait se rendre. Et nous voulons que les conditions meilleures soient là. Qu'ils aient de la nourriture, qu'ils aient à boire, qu'ils aient des habits, mais également qui soient formés là-bas.
Monsieur le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tamboué, merci d'avoir reçu grande interview.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette interview qui consacre moi, le premier anniversaire du PDDRCS.
Merci beaucoup. Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et supervision, Alain Hirong-Mouchij. Coordination, Michel Kifindangoy. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission, ainsi que plusieurs autres numéros de grande interview, en allant sur www.radiookapi.net. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix.